Voilà. Donc le thème, c'est le respect de la nature. Et il y a des lois dans la Bible, il y a des paroles dans la Bible qui nous disent de respecter la nature. Hein? Mais on va voir comment, pour qu'il n'y ait pas de piège. Donc dans Jérémie, au chapitre 27, verset 5, voici ce que l'Éternel dit par la bouche de Jérémie. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Voici une façon de vous présenter les choses. Aujourd'hui, énormément de gens disent qu'il y a une puissance dans la nature, il faut être en communion avec les énergies, et on va chez des gens qui imposent les mains, etc., ou on se met dans des méditations et on met un Bouddha dans le fond du jardin. Dans tous les grands magasins, maintenant, on trouve des Bouddhas. Et donc, beaucoup de gens maintenant mettent des Bouddhas et on trouve à la déchetterie, on trouve à Barranzy, etc., à Rouvroy, des crucifix. Même que les ouvriers, parfois, sont choqués et me disent, vous les prenez? Je les reprends parce que, évidemment, je ne vais pas dire que je crache dessus. Il y a un scandale dans l'âme d'un certain nombre de gens en voyant ce qui se passe. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la nature qui est Dieu, d'une façon comme de l'autre. Bon, pour quelqu'un vraiment qui recherche, il va dire, je crois dans l'immanence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans la nature, il parle par la nature. C'est ma façon de le connaître. Je sais bien que Dieu est une personne, mais il est dans la nature, il est partout, et il me parle par la nature. Ça, c'est l'immanence. La transcendance, c'est autre chose. C'est la nature ne peut pas me parler de Dieu si Dieu ne parle pas. Je prends un exemple. Vous êtes devant un grand magasin, une vitrine, il y a des belles voitures dedans, et il y en a un qui est à côté de moi et qui dit, mais regardez cette vitre, elle est belle cette vitre, il y a des voitures dans la vitre. Les vitres et la voiture, il les confond. Il regarde la vitre et la voiture, et pour lui, ça ne fait qu'un. C'est ça l'immanence. La transcendance, c'est quelqu'un pose une voiture à 2 mètres, à 5 mètres derrière la vitrine et me montre la voiture à travers la vitre. La vitre n'est pas la voiture et elle n'est pas celui qui met la voiture là. La transcendance, c'est reconnaître la personnalité et l'intervention de la personne qui parle à travers la nature. Il y a donc absolument une distinction entre la nature, le créé et le créateur. C'est extrêmement, je donne la terre à qui cela me plaît, 27, Jérémie 27, verset 5. À qui cela me plaît? Alors, regardons Jérémie, chapitre 10, verset 12. Le grand drame de nos civilisations, c'est qu'il a été lancé des théories philosophiques de toutes les sortes. Bon, j'ai beaucoup lu et longtemps étudié. Je me suis laissé séduire, vous savez, par des livres. Ça durait, par exemple, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Un livre me trottait dans la tête et je finissais par le croire. Et puis, je prenais du recul et je me disais, mais non, ça ne colle pas, ça. Ça ne colle pas. Et c'est parce que j'avais toujours soif de la vérité. Et je ne pouvais pas me limiter à des à peu près. Vous devez, chers amis, avoir une soif d'absolu. Pas de vérité partagée, de vérité mitigée. Balancée par les hommes dans nos tuyaux, dans nos oreilles, dans notre mental. Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre avec puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages aux extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre et honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Donc, vous voyez, il y a... C'est pas que Dieu veut être méchant, mais il ne n'aime pas, il n'aime pas du tout qu'on le travestisse et qu'on dénature sa révélation. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses se passent comme si ce n'était pas grave. C'est, on peut, je dirais, et pourtant en science ou en mathématiques, 2 plus 2 égale 4. Toutes les formules restent les formules, etc. C'est bizarre, en science, c'est toujours très strict, mais quand c'est dans les choses de Dieu, l'à peu près et le flou artistique est de mise. Tout est inductif. Tout part de la pensée de chacun, de chaque église, de chaque pasteur, de chaque prédicateur, de chaque gourou, de chaque émetteur de messages sur l'Internet, etc. Il y a une pagaille au niveau de la parole de Dieu, de la révélation, alors que dans la Bible, les choses sont claires. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas l'objet d'une interprétation particulière, a dit l'apôtre Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Toute parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit, donc Dieu. Et l'homme a besoin d'une révélation claire. Pourquoi ? Dans Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Si le message n'est pas clair, l'homme s'égare, se perd. Il n'a pas la capacité de distinguer le vrai et le faux par lui-même. Donc on voit bien que la transcendance est nécessaire sur l'homme. L'autorité, la pureté de la parole et l'autorité de sa parole sur la personne pour qu'elle sache où elle doit aller. C'est tout le contraire de la philosophie de l'Europe occidentale qui est en train de pourrir la civilisation. Et comme on a droit à tout et à tout entendre, ça devient une pagaille. Et c'est au point que ça touche tous les comportements, tous les discours des hommes politiques. Ça mène pagaille totale, dans les couples, dans tout, dans l'éducation des enfants. C'est devenu un chaos. À force de se moquer de Dieu, n'est-ce pas, de ne pas le prendre au sérieux, on récolte la tribulation. C'est clairement expliqué dans Romains, au chapitre 1 et 2. Regardons dans Jérémie au chapitre 12, verset 4. Verset 3 d'abord, chapitre 12 de Jérémie, chapitre 12, verset 3. « Toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. » Voilà quelqu'un qui confesse sa communion à Dieu et qui se soumet. Qui s'incline et qui laisse vraiment la transcendance, l'autorité, la majesté de Dieu prendre la direction de sa vie. Les amis, est-ce que c'est votre cas de laisser à Dieu la majesté, l'autorité, la direction de votre vie? Est-ce que c'est vraiment le cas? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon cas aussi? L'examen de conscience est toujours nécessaire. La repentance est toujours nécessaire. C'est le point majeur pour plaire à Dieu. Nous devons nous présenter à Dieu comme une offrande. Une offrande est un sacrifice. Et c'est un sacrifice brûlé par le feu. Le feu de la parole. Le feu de la justice de Dieu. Regardons toujours dans Jérémie 12, verset 4. « Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? L'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ?» Alors c'est la fin du verset qui m'intéresse. « À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car il dit, s'il ne verra pas notre fin. » Donc, et on se moque de Dieu. On peut le narguer. Eh bien, on voit une dégradation du monde animal, de la faune, de la flore, de tout, à cause du péché. Voilà, 7e siècle avant Jésus. Regardons Jérémie chapitre 23, chapitre 23, versets 28 et 29, que le prophète qui a eu un songe, parce que c'est, on en a partout maintenant des songes, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de courants, une confusion entre le vrai songe que Dieu peut donner, qui doit être suivi d'une interprétation par une autre personne. Il m'est arrivé souvent que des personnes qui avaient des songes venaient me trouver. Je priais, je leur disais, voilà ce que ça veut dire, en référence à la Bible et tout ça. Le songe ne peut pas être interprété par la même personne que celui qui l'a reçu. Autrement, il va faire le malin, il va tout mélanger. C'est comme le don des langues. La personne qui a le don des langues ne peut exercer ce don des langues que s'il y a quelqu'un d'autre qui interprète et qui dit ce qui a été dit, qui le traduit aux autres. Autrement, ce n'est pas biblique. 1 Corinthiens 14. Donc, dans les songes, quand un songe est donné par Dieu, une autre personne doit l'interpréter. Pourquoi ? Pour l'humilité du service devant Dieu. Que personne ne se lève en disant « Je suis malin, moi j'ai des songes, je peux vous dire ce que Dieu m'a dit, etc. » Non. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Vous voyez qu'il y a une différence entre le songe et la parole ? C'est radicalement différent. La parole est ici. Les songes, à part ceux de Daniel, ceux de Joseph, quelques-uns, on ne s'amuse pas. Dieu ne s'est pas amusé à les mettre tous dans la Bible. Et les songes qui se passent dans certaines églises ne sont pas dans la Bible, n'y seront jamais. Donc ils n'ont pas autorité. Quand vous entendez quelqu'un, qu'il soit prêtre ou pasteur, n'importe qui, une femme, n'importe, qui vous étale les songes en assemblée et qui cherche à vous emporter dans son courant de pensée, ça peut être aussi bien un médium. Et pas quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Il faut beaucoup d'expérience pour faire la différence, mais je vous garantis, j'avais averti des chrétiens, alors regardez bien ce qui est mis, « Pourquoi mêler la paille au froment ?» dit l'Éternel. Ben oui, en principe, on sépare la paille et le froment, et puis après, l'enveloppe qui est alentour du blé, la balle, pour avoir le froment. Et pourquoi ? Pour faire la farine. On ne peut pas mettre la paille et le froment ensemble pour faire de la farine et du pain. « Pourquoi mêler la paille au froment ?» dit l'Éternel. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Donc la parole de Dieu est distincte de tout sentiment, de toute induction qui nous viendrait en regardant la nature. La parole de Dieu a une autorité, une spécificité, une identité propre, et ce n'est pas à toute la nature à nous dire ce que Dieu dit. Si Dieu dit quelque chose à travers la nature, Dieu nous dit sa gloire à travers la nature. Il nous dit sa grandeur, sa personnalité, son intelligence. Il dresse un décor pour qu'après vienne la parole. Le décor, comme dans une pièce de théâtre, une pièce de cinéma, il y a des décors, et puis il y a les acteurs. L'acteur, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas le décor. Ok ? La nature peut nous donner le décor qui nous parle de Dieu, qui nous prépare à entendre la parole. Et la nature n'est pas l'instrument premier de la révélation. C'est un instrument d'environnement, de préparation, qui est nécessaire, mais il faut la parole révélée, la Bible. C'est extrêmement important de le dire, parce que ça dérape de tous côtés pour le moment, dans notre société, au niveau de tout ce que tout le monde veut dire et transformer. Alors, je voudrais vous exprimer encore autre chose dans Jérémie, au chapitre 8, versets 6 à 13. Jérémie, chapitre 8, versets 6 à 13. Bon, je vais commencer... verset 4. Hein. Jérémie, chapitre 8, je vais commencer au verset 4. « Dis-leur, donc Dieu envoie Jérémie pour parler à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ? Ou se détourne-t-on sans revenir après ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements, c'est-à-dire sans revenir à moi après ? Pourquoi l'Europe aujourd'hui et les familles, même qui se disent chrétiennes, après s'égarer, après avoir fait des mauvais choix, ne reviennent-elles pas dans la repentance vers Dieu ? C'est ça que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Hein ? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir, vous voyez ? Je suis attentif et j'écoute, ils ne parlent pas comme ils devraient, aucun ne se repent de sa méchanceté, il ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. L'obstination dans l'égarement, l'obstination dans la débauche, l'obstination dans l'amour de l'argent, l'obstination dans les affaires, l'obstination dans les divisions au sein des couples, l'obstination de chacun. Il n'est plus possible d'avoir une vraie communion dans beaucoup de couples. Aujourd'hui. Alors, regardez bien, aucun ne se répand de sa méchanceté, ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est « Laisse-toi circoncire le cœur. Reviens vers moi. Convertis-toi. Change d'avis. » C'est ça la loi de l'Éternel. Je suis saint, toi tu ne l'es pas. Tu dois venir à moi. Pour être lavé par le sang de Jésus. Pour être sauvé par le sang de la croix. Nous sommes bientôt à Pâques, c'est extrêmement important de le dire. Comment pouvez-vous dire « nous sommes sages, la loi d'Éternel est avec nous » C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, sont consternés, sont pris. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse sont-ils ? Ça veut dire qu'à l'époque de Jérémie, énormément de prêtres et de gens se prétendaient des prophètes, étaient en train de tromper le peuple. Et Jérémie était seul. Vous savez où il était ? Dans une immense citerne de plusieurs centaines de mètres cubes, au fond dans la boue, jusque-là, pendant des mois. Le premier livre qu'il avait écrit de Jérémie, le roi et les prêtres l'ont brûlé, n'ont pas voulu. Il était dans la citerne. Et Baruch, un autre prophète, est venu au-dessus. Jérémie a redicté tout le livre, tout son livre que vous avez là, encore deux fois. La deuxième fois, les rois et les prêtres l'ont encore brûlé devant tout le monde sur la place de Jérusalem. Ensuite, la troisième fois, il est resté et c'est celui-là qui nous est parvenu. Vous voyez à quel point Jérémie ne lâchait pas et à quel point Baruch courait des risques. Les gens qui nous ont laissé ce texte aimaient vraiment Dieu. Et ont payé le prix fort pour nous transmettre cette parole. Et voilà ce qu'il dit, les sages sont confondus, sont consternés, sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, quels sages sont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, leur champ à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, pognon, fric. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple, paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils sont confus, ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues ou figuiers, les feuilles se flétriront, ce que je leur avais donné leur échappera. Qu'est-ce qu'il avait donné ? La culture, l'agriculture, la vigne, les figuiers, et tout dépérit. La ruine. Donc c'est en plus de la ruine spirituelle, de l'obstination contre Dieu et sa révélation, la ruine économique. Et est-ce qu'il faut être aveugle pour voir que nos pays européens sont assis sur une ruine, qu'ils cachent par des beaux discours, et qu'il est temps de s'humilier. Est-ce qu'il faut attendre que le châtiment de Dieu soit plus grand? Qu'il n'y ait plus de sous pour les pensions? Pour payer les frais de santé? Pour refaire les routes? Etc. Est-ce qu'il faut encore pécher plus longtemps? Croyez-vous que Dieu va céder aux pressions de l'homme? Vous savez que quand je parle comme ça des musulmans, eux comprennent beaucoup plus vite que parfois beaucoup de gens, même qui se disent chrétiens. Ils ont le sens de la transcendance de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ont le sens de salut par grâce, mais de la transcendance, ils l'ont. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, versets 11 à 15. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacal, je réduirai les villes de Juda, un désert sans habitants. C'est arrivé. Et verset 16, je disperserai parmi les nations qui n'ont connu ni eux ni leurs pères, j'enverrai derrière eux les pays. C'est arrivé. Donc, les amis, ce que je veux dire, c'est que la nature en soi n'a pas de puissance. La nature est bénie si la foi est là. La nature est bénie si la foi et l'obéissance sont là. Et la nature nous donne à manger. La nature nous donne la sécurité. Mais s'il y a désobéissance, s'il y a insolence et arrogance envers Dieu, la nature se dégrade au point que l'homme ne bénéficie plus de la bénédiction qui passe par la nature. Sachez-le bien. Vous pouvez lire Zacharie chapitre 14, vous verrez qu'à la fin des temps, tous les peuples qui ne prient pas vers Jérusalem pour le venu du Messie n'ont plus de pluie et que les déserts s'installent. Allez lire Zacharie chapitre 14. Donc, la nature en soi, si vous voulez, c'est quelque chose que Dieu a dans ses mains. Comme Jésus avait la tempête dans la mer de Galilée dans ses mains. Donc, tous ces discours énergétiques et autres, tous ces Bouddhas dans les jardins, et toute cette belle revue qu'on voit, qui est en train, monsieur et madame ont travaillé, ils ont leur pension, ils vont faire des voyages en avion, puis ils ont une belle petite nature, ils mettent des petites grenouilles, des salamandres là, puis ils mettent ci et ça, et ils mettent un Bouddha, ils ont la paix, ils ont la paix. Ça va durer combien de temps cette paix? À l'époque de Jérémie, elle n'a pas duré, elle ne durera pas cette paix, c'est que du mensonge. Je suis peut-être un peu méchant dans tout ce que je dis, mais bon, voilà. Je parais peut-être casse-pied, même pour certains. Regardons Ésaïe 14. Un jour, j'avais sur le tracteur, je montais au champ, une petite fille à côté de moi, assise à ma droite sur le garde-roue. Cette petite fille, vous venez de la voir passer, elle a 33 ans, elle est institutrice, elle fait l'école du dimanche pour le moment. À cette époque-là, elle avait 9 ans, 10 ans, et il avait fait une grande sécheresse, et les personnes avaient pu faucher une fois du foin, mais après, ça ne poussait plus. Il n'y avait plus que, vous savez, pour certaines plantes, là, des petites fleurs avec des graines et tout, comme, je ne sais plus les noms de ces fleurs-là, mais le plantain, lancéolée. Il a une petite tige avec une graine, ben, avec ça, rien du tout, dans tous les champs. Mais moi, j'ai toujours été au champ par amour de Dieu. J'ai toujours été faire ce jardin par amour de Dieu. Quand j'étais petit, et qu'on m'envoyait travailler là tout seul, quand je piochais les betteraves et patates pour les nettoyer, c'était le seul garçon, j'ai appris à prier. Souffrir et prier. Eh bien, souffrir dans la paix, c'est la paix qui dominait sur la souffrance. Et la relation avec Dieu me faisait oublier la souffrance du soleil et de la pioche. Pratiquement, c'est Dieu qui guérit mon âme. C'est pas le médicament ni le psychologue. C'est Dieu dans la relation avec moi qui me guérit mon âme. Et la douleur du travail est supportable. Vous voyez? La douleur de beaucoup de choses sont supportables quand on est dans la relation avec le Seigneur, dans la prière. Dieu n'a pas dit qu'on aurait facile. Mais en tout cas, il y a une consolation. Et l'affliction ne dure pas. Et bien dans le champ, dans ce champ où j'avais appris à prier et à souffrir, et à voir la dominante de l'âme, c'était la paix, la bénédiction, malgré la souffrance, malgré la dureté du travail. Parce que j'y restais pas un quart d'heure, une demi-heure, de venir pleurer tout près des parents. Hein. Ah, j'ai mal par-ci, par-là. Non, rien du tout. C'était pour des heures. Hein. Pas le droit à l'excuse et au retour. Sinon, pas à manger et de la trique sur les fesses. Pratiquement, si vous voulez, ce jour-là, quand je suis monté avec la petite fille, qui était Bénédicte, nous allions dans notre champ, et notre champ, dans tous les autres, les autres avaient quelques herbes de plantain lancéolées, etc., nous avions une végétation comme ça, de luzerne, sur plusieurs arbres, avec des milliers de fleurs de la luzerne, mauve, rose, etc., des centaines de papillons. Je suis arrivé tout près de Bénédicte et je dis, regarde. Regarde Bénédicte, comme Dieu t'aime. Regarde comme Dieu nous aime. Regarde. Notre champ est couvert de verdure, de luzerne, comme ça, avec des centaines de fleurs et de papillons. Regarde Bénédicte, ne doute jamais de Dieu. Regarde ce que Dieu peut faire pour te faire comprendre que même si les autres ne veulent pas la bénédiction et ne la reçoivent pas, que pour celui qui aime Dieu, il y a une bénédiction. Mais il faut savoir l'attendre avec patience. J'ai donné des enseignements comme ça souvent à nos enfants. Mais je me rappelle, la Bénédicte était ouverte en disant « Papa, papa ». Et puis elle descend du tracteur et elle regarde. C'était à la limite du terrain. Naturellement, on peut expliquer que la luzerne a des racines qui vont à 45 cm, alors que l'herbe et le trèfle ont des racines qui descendent à ça. Donc, s'il y a la sécheresse sur cette zone-là, c'est forcé qu'il n'y a rien qui pousse. Mais la luzerne va jusqu'à 35-40 cm avec sa racine. Donc, c'est pour ça que dans ce champ, la luzerne était un langage de Dieu pour ce jour-là, pour enseigner à l'enfant qu'on ne fait rien sans le remettre à Dieu. On ne fait rien sans prier, sans lui offrir tous les jours. Si on ne le fait pas, on est dans la même désolation que les incroyants. Il faut mettre en œuvre sa parole. Et regardons bien dans Ésaïe 14. Ésaïe 14 est en train de, pour Dieu, de dire, donner un message. Nous sommes au 8e siècle, en 760, 770, avant Jésus, un message qui s'adresse à un empereur d'Irak, donc de Babylonie, qui n'est pas encore né. Un empereur qui va faire la guerre, qui va envahir toutes les nations du Moyen-Orient. Si on avait laissé faire Daesh, Daesh est l'État islamique, on n'est pas intervenu, il serait le maître jusque déjà à l'Éthiopie, hein, jusqu'à la Grèce et Kazakhstan et tout ça, il le serait, hein. C'était comme ça, Nebuchadnezzar. C'est un peuple féroce, et quand il se met en route, ça barde, hein, ça saigne. Eh bien, c'était ça. Et Nebuchadnezzar est dévoilé, si vous voulez, il est annoncé par Ésaïe plusieurs siècles avant. Et ce qui se passe, c'est que là, déjà, après cette période où il a tout conquis, il a tout gagné, apparemment, il est tellement insolent, tellement arrogant et tellement méchant que Dieu le brise. Et il annonce la chute de Nebuchadnezzar. Et dans sa chute, Dieu dit ceci, regardez bien, verset 3, chapitre 14, verset 3, « Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, ça concerne Israël, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, écho, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. » Brisé. Le roi de Babylonie est brisé. Par qui? Les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire l'Iran et l'Afghanistan. Puis après, Alexandre le Grand qui passe, et les Romains qui passent. Laminé, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, le prophète, en disant que cet empereur qui viendra plus tard, qui va briser l'Israël qui n'obéit pas, il sera puni lui-même, il parle de celui qui habite le cœur, l'âme et l'esprit de cet empereur. C'est Satan. Et qu'est-ce qu'il dit sur Satan? Verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Donc astre brillant, en hébreu, on a trouvé un mot pour le traduire au 4e siècle, en 392. C'est Jérôme de Césarée, celui que les catholiques appelaient Saint Jérôme. Quand il a écrit la Vulgate, il a pris l'étoile Vénus, mais en latin c'est Lucifer. La grosse étoile qui brille souvent très tôt le soir et qui brille très tard jusqu'au matin, qui est plus forte. C'est Vénus en fait. Et en latin c'est Lucifer. Et il se promenait, il n'arrivait pas à traduire ce mot. Et il a pris, je veux l'appeler Lucifer, je veux l'appeler comme Vénus, c'est l'étoile brillante, l'astre brillant dans le ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, donc au-dessus des anges. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, donc à Jérusalem. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans ces jours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, Dieu fixe un terme. Anéantissement de Satan. Dans la politique, la géopolitique de la Syrie. Toutes les géopolitiques, qu'elles soient celles de Monsieur, toutes les géopolitiques montent. Et quand ils deviennent arrogants, Satan vient avec, en rajouter, ils se laissent conduire par ce maître, et puis Dieu les brise. Tous les empires tombent. Mais ce qu'il y a, c'est que mon but n'était pas de vous parler ça, c'est de vous montrer la pertinence sur la nature. Regardez bien, au verset 16, il te considère attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Vous voyez que cet homme possédé de Satan crée le désert. Quand vous regardez notre civilisation, qui a déforesté le Brésil. Il y a des régions entières, maintenant il n'y a plus d'eau. Les paysans ne savent plus rien cultiver. Plus rien. Dans beaucoup de pays, les puissants ont déforesté. Ils ont déforesté en sachant bien qu'ils tuaient la nature de leur pays. Ils tuaient l'équilibre. En Indonésie, c'est la même chose. Dans le Ghana, on a logé un couple du Ghana, ici. Tout le Ghana est déforesté. Plein de pays d'Europe sont déforestés. Pourquoi le Sahara est-il du Sahara? Parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des civilisations qui sont battues, on a déforesté. Quand on ne respecte pas la nature, c'est parce qu'on écoute Satan. Nos systèmes économiques qui détruisent la nature sont des instruments de Satan. Dieu n'a jamais voulu détruire sa nature. Et Satan veut détruire la nature. Pourquoi est-ce qu'il veut détruire la nature? Pour détruire l'homme. Donc les écologistes aujourd'hui doivent savoir qu'il faut honorer Dieu. Il faut l'honorer, ne pas honorer les puissants. Il faut prier pour les puissants. Il faut que les puissants ne puissent pas rentrer dans l'arrogance et être utilisés par Satan. Quand ils sont utilisés par le monde de l'argent, donc par le monde de Satan, ils déforestent, ils créent les déserts, ils créent la famine, ils créent la misère sur la terre. Et Satan se frotte les mains. Il crée le désespoir. C'est pas Dieu qui crée le désespoir. C'est pas Dieu qui crée la pauvreté. C'est pas Dieu qui crée la ruine économique. C'est par le péché de l'homme et par l'instigation de Satan. Et donc ce qui est dit là, c'est que ce Satan est condamné à travers Nebuchadnezzar. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans la nature, les amis, nous adorons le vrai Dieu. Et l'exemple que je vous ai donné pour Bénédicte sur le tracteur, quand on est descendu, quand on a regardé notre parcelle, c'est que Dieu peut bénir la foi et que la foi bénit la nature. La foi est une source de bénédiction pour le champ, pour la forêt. Si vous allez vous promener dans la forêt en priant, la forêt est bénite. Si vous allez dans la forêt pour vous, en petit égoïste, écologiste, vous ne la bénissez pas. Ok? Parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme qui bénit. C'est très important. C'est pour ça que je vous dis, je voulais parler de la nature, parce qu'il y a trop de confusion, même chez les croyants. Alors regardons le nouvel ordre de Dieu. Moi, je suis confiant dans le Seigneur pour tout ce qu'il va faire. Regardez Ésaïe 65. La confiance que j'ai dans le Seigneur, j'espère que vous l'avez aussi, Franchement, Dieu est capable de redresser la nature d'une manière spectaculaire, pour montrer que lui est bon et fidèle dans son amour. Comme avec un pécheur qui a péché lourdement, Dieu est bon et fidèle et peut restaurer son âme et le relever. Pour le monde entier, pour toute la nature, Dieu est bon et fidèle et peut relever, faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il a la puissance. Et Pâques, c'est la fête de la puissance de Dieu. La victoire de Dieu. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Donc, Ésaïe 65, verset 16. Le Dieu de vérité, ce n'est pas le Dieu du mensonge. Hein? C'est quand même différent. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Vous vous rendez compte de ce que vient de dire Dieu? Les anciennes souffrances seront oubliées. Y compris la mort. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Donc ça ne sera plus pour les banques. Comme on voit tous les paysans, les cultivateurs et tous les autres, même les industries. Parce que même une usine rentable, vous savez qu'on la ferme? Parce qu'elle n'est pas assez rentable. Alors qu'elle est rentable, elle crée de l'emploi. Elle n'est pas assez rentable. On a décidé à la bourse de la mettre à plat. Voilà comment on fait dans l'économie. Eh bien non, parce que le dirigeant du monde, ce sera Dieu. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte et l'Éternel. Vous voyez de quoi est capable Dieu? Hein? Vous voyez de quoi il est capable? Ainsi parle l'Éternel, chapitre 66, verset 1. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Nous parlons de la nature, d'une manière ici, nous savons qu'elle appartient à Dieu. Nous n'adorons pas la nature, nous adorons le Créateur de la nature. Adieu les confusions. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Pourquoi il souffre? Parce que pour le moment, il y a un monde où il n'y a que le péché qui règne. Le mensonge, la tricherie, les déséquilibres économiques, la violence, les tromperies des dirigeants, même des tout petits, la tromperie des tout petits aussi. De tout le monde, à tout niveau. Eh bien, on souffre. C'est pour ça que Jésus dit « Heureux les affligés qui arriveront Dieu. Heureux ceux qui auront le cœur abattu parce qu'ils seront consolés. » Pourquoi Jésus a promis le Saint-Esprit? Parce que dans ce monde de fous, il nous faut bien un consolateur. Il faut bien le Saint-Esprit pour nous porter. Parce que ce monde n'est pas fait pour nous. Si nous sommes enfants de Dieu, il n'est pas fait pour nous, ce monde. On ne s'y plaît plus. À partir du moment qu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus s'y plaire. Il tourne mal. Et donc, c'est pour ça que Dieu a le regard. Il a le regard sur nous. C'est pour ça que je voudrais vous dire ceci. Ne considérez jamais, quand vous souffrez, que vous êtes tout seul. Dites, Seigneur, je sais que tu me vois. Je sais que tu sais ce que je vis, tu sais ce que je souffre. Seigneur, je ne suis pas seul. Je sais que je suis avec toi. Ne dites pas, Seigneur, je sais que tu es avec moi. C'est trop égocentrique. C'est centré sur moi. Seigneur, je sais que je suis avec toi. Je sais que tu es avec moi. je sais d'abord que je suis avec toi. Je suis à toi, Seigneur, parce que tu me regardes, tu connais mes souffrances. Voilà, voilà sur qui je porterai mes regards. Et tous les textes sont dans ce sens-là. Chapitre 51 d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe est un homme extrêmement sensible, très sensible. Quand on l'étudie vraiment souvent, moi je l'ai lu, relu, c'est un homme hypersensible et qui avait un sens du péché, un sens de la grandeur de Dieu et de son indignité, mais il avait un sens de cet amour, de ce fidèle de Dieu à son égard qui était formidable. Chapitre 51, verset 15. Je suis l'Éternel, ton Dieu, chapitre 51, verset 15, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux, pour fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a sucé jusqu'à la lie la coupe de l'étourdissement. Pourquoi ? Parce que l'étourdissement est fini. La colère est finie. Verset 22, « Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. » Qui défend son peuple. Voici, je prends de la coupe, de ta main, la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi, nous passerons sur toi. Il y a un jour où c'est fini. Nous avons la victoire. Nous avons et nous voyons la défaite de ceux qui nous font souffrir, y compris des démons, peut-être dans lesquels on a mis les pattes, dans les engrenages de démons, dans les œuvres hostiles, ténébreuses, et qui toujours nous recourent après, parce qu'ils n'aiment pas perdre la partie. Tout ce qui est du démon et du péché sera anéanti. C'est déjà condamné. Vous le voyez bien là, c'est anéanti à la croix, de Christ. Chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. La nature a donc une place dans tout ça. La nature sera bénie par Dieu. Elle sera bénie le jour que le Seigneur fait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Un écologiste d'aujourd'hui, sans Dieu, qui n'est pas adorateur de Dieu, ne pourra jamais, que soit de s'enorgueillir, de plus en plus devenir un maniaque de la nature, qui coupe tout en quatre, et qui veut tout cerner, ou alors un écologiste qui souffre parce qu'il n'arrive pas à ce qu'il souhaite pour la nature. Mais un écologiste qui est à la fois adorateur de Dieu va mettre Dieu à la première place et il verra l'amour de Dieu pour la nature. Il saura que la victoire de Dieu sur la nature sera grande, comme sur le cœur de l'homme. Ésaïe chapitre 11. Donc, ce Jésus de Nazareth, qui est concerné dans ce texte, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, donc le paysan Ésaïe, c'est pas le prophète Ésaïe, ce paysan a eu 7-8 enfants, dont le prophète David. Et en rejetant naîtra de ses racines, donc Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point le jugement sur un oui-dire. Voilà le Jésus de Nazareth, qui connaît bien les cœurs et qui ne va pas se laisser démonter par les mensonges de la terre. Il jugera les pauvres avec justice, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejetant d'Ésaïe sera là comme une bannière pour tous les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. nous approchons de Pâques, la gloire du ressuscité, déjà dans sa résurrection, mais la gloire dans son retour, dans l'établissement de son règne, vous l'avez là. Et la gloire sur la nature. Moi, quand je vais dans la nature, même dans mon champ, je sais que le champ sera immensément meilleur, encore plus béni, il donnera encore plus de fruits et de légumes quand le Christ reviendra. Parce qu'il n'y aura plus le péché de l'homme et les démons pour abîmer la terre. Et mon péché avec. Je ne vois pas que le péché des autres, je vois le mien. Il y a une grande œuvre à travers les âmes, à travers les animaux, à travers la nature. Et c'est pour vous dire que nous aimons la nature en tant que chrétiens, nous aimons les animaux, mais nous aimons d'abord le maître de la nature, le maître des animaux. Et nous savons qu'il transformera, parce que le péché touche les animaux. Prions aussi, par exemple, que Noémie ne me jette pas une gifle, que ma femme ne me morde pas, ou que Annette ne m'insulte pas. Prions les uns pour les autres, que l'œuvre de la bénédiction soit dans nos vies, tous, pour les uns pour les autres. Prions pour que le péché n'ait pas d'autorité sur tous ceux que nous connaissons, ni sur les chats, ni sur les veaux, ni sur les chevaux, parce que le péché dérègle beaucoup de choses. Je connais quelqu'un qui est passé pendant des années, 25 ans derrière son cheval, et il passait en dessous, et était intéressant de l'occuper, et un jour il est passé, prend un coup de patte dans la poitrine, pan, contre le mur, et 2 ans et demi après, mort du cancer. Oh, le brave dada, le brave gentil cheval. Les amis, le péché a touché la nature. N'idéalisons pas la nature. Comme on n'idéalise pas le mariage non plus. Parce que dans le mariage, on peut recevoir des coups de patte de l'un de l'autre. Hein? Ou des coups de langue. Dans le mariage, c'est la même chose. Le péché est notre ennemi, c'est pas l'autre. C'est pas le conjoint notre ennemi. C'est le péché qui dérègle tout. Ce que je voulais vous dire, et c'est très important pour qu'on en finisse avec cela, c'est que le péché est notre ennemi, pas le prochain, pas le chien, pas la vache, pas la nature. Et Dieu est notre ami, Dieu est notre bénédiction. Et c'est à Dieu qu'on doit s'adresser tous les jours. Et la nature n'est pas Dieu. La nature n'est pas Dieu. Elle n'est pas si bonne que ça, la nature, pour le moment, tant que le péché est encore là sur la terre. Ézéchiel 17, quelle heure est-il ?
Midi.
Midi. Ézéchiel 17.
Midi 10.
Midi 10, oui. Ézéchiel 17, verset 24. C'est extrêmement passionnant, je trouve. Si vous voulez, nous sommes en cours de route dans notre existence chrétienne. Nous sommes en cours de route, c'est-à-dire que nous avançons, nous faisons une partie du chemin, dans la foi, un petit peu avec un bandeau sur les yeux. Et puis un jour, quand le Seigneur va être là, il va tirer le bandeau, on va tout voir dans la gloire. Tout va être transformé dans la gloire de Christ. Nous avons une chance formidable. C'est que nous sommes sur le chemin et le Seigneur sera au rendez-vous. Et toute la nature sera transformée. Ézéchiel 17, 24, tous les arbres de champ sauront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Est-ce qu'il n'y a pas là une manifestation dans ce verset d'une autorité absolue de Dieu et de sa puissance? Et en même temps, un retour. C'est-à-dire que la nature sera capable d'être, d'adorer Dieu. Tous les arbres des champs sauront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. La nature en sait plus sur Dieu qu'un tas de gens d'aujourd'hui qui sont athées. La nature en sait plus sur Dieu. Et les athées et ceux qui se moquent de Dieu n'ont pas de respect pour le Créateur. Ils deviennent encore plus ignorants, plus stupides que la nature. Dans 1 Corinthiens 15, nous avons la manifestation de la gloire de Dieu. Pour nous, Mais nous faisons partie de la nature, nous avons un corps, nous avons un psychisme. Et donc, quand notre corps qui souffre, hein, ici, pas mal de nous ont un corps avec des misères, ou une psychologie avec des misères. Et tout ça, la psychologie, c'est lié à notre cerveau, à notre passé, etc. Des choses qui sont enregistrées dedans. Pratiquement, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. 1 Corinthiens 15, verset 51. Je vous dis un mystère, donc une vérité qui va se dévoiler à vos yeux, progressivement, parce que Dieu va vous le démontrer. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, verset 52. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ça, c'est Osée chapitre 13, verset 14. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton fouet, ton aiguillon pour tuer? Le fouet de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Les grâces sont rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a la victoire sur toute chose. Et la parole annoncée au 8e siècle par Osée, « Ô mort, où est ta victoire ?» La mort n'a pas victoire. Satan n'a pas victoire, le péché n'a pas victoire. Il règne pour un certain temps maintenant, le temps que Dieu veut bien. Et quand c'est fini, que Christ revient, c'est fini. Donc, il faut une énorme foi, une énorme confiance dans l'autorité de Dieu, les amis. Et il faut savoir que la première obéissance, c'est la foi. La première obéissance, c'est la foi. Oui, Seigneur, je te remets ma foi entièrement. Si vous avez compris cela, sachez bien que toutes les autres formes d'obéissance en découleront. Il faut que cette foi dans la véritable personne, ce Dieu Tout-Puissant, infiniment grand, qui a tout créé, qui va tout recréer, renouveler, qui va anéantir la mort, il est ici. Parce que vous ne le voyez pas, vous en diminuez sa puissance et sa majesté. Vous n'en avez pas le droit. Parce que vous ne le sentez pas, vous en diminuez sa puissance et son autorité. Mais non. Jésus a toujours dit à tous ceux qu'il rencontrait, va qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tu es responsable de ta foi. Et tu connaîtras la gloire de Dieu selon la puissance de ta foi. Les amis, faites attention. Fais attention, les amis. Va qu'il te soit fait selon ta foi. C'est la première obéissance. Et nous ne sommes pas loin de Pâques, sachant bien que l'obéissance est toute simple. Elle vient d'un cœur qui s'abandonne à Dieu, qui fait pleinement confiance au Dieu vivant. Au Dieu vivant, pas au Dieu lointain, au Dieu proche. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis... J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Est-ce que je le crois? Est-ce que je le crois? Hier, quelqu'un dans notre cuisine en haut disait, « Oh, j'aimerais bien que le Seigneur refasse des miracles. Ça m'aiderait dans ma foi. » C'est l'inverse qu'il faut dire. « Seigneur, augmente ma foi et je verrai tes miracles. » Amen.